Bah alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver avec ces lettres, hein?
Tous les jours.
Et bata.
Offrez-vous une parenthèse de savoir.
Et bata. Et bata. Vaquer. W-A-K-E-R. Bien sûr que ça existe.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Vaquer, c'est du vieux français, déjà. Et ça veut dire. Ça désigne un objet. Qui n'existe plus d'ailleurs, mais le mot existe toujours. Voilà.
Sur RTL.
T'as jamais entendu l'expression fier comme un vaquer?
Pierre Palmade et son sketch cultissime, le Scrabble. On va vous aider à progresser en français et donc au Scrabble grâce
à
notre invité.
On sera fiers comme des vaquers comme ça, c'est bien.
Oui, c'est ça, Muriel Gilbert. On va peut-être l'utiliser de temps en temps, le mot vaquer. Ça va rester un running gag de... Enfin, ouais. Pardon, une blague récurrente. On va parler en français. Hein, récurrente de l'émission jusqu'à la fin de la saison. Bonjour Muriel Gilbert.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue.
Bon, on est très heureux de vous retrouver. Bienvenue chez vous. Hein. Vous êtes chroniqueuse, je le rappelle, tous les samedis et dimanches à 8h20 sur RTL, avec Stéphane Carpentier, correctrice au Monde, auteur de nombreux livres sur la langue française. Petite question traditionnelle depuis le début du confinement. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre?
Alors, j'ai la chance d'habiter en banlieue parisienne. C'est pas toujours une chance, mais vous voyez, finalement, maintenant, je m'en réjouis. J'ai un joli petit jardin. Il est tout petit, mais je peux en profiter. Et donc, c'est ça que je vois par ma fenêtre. J'ai une fenêtre qui donne sur ma petite terrasse et mon petit jardin qui est ensoleillé pour le moment. Et je me réjouis d'y passer un petit moment chaque après-midi.
Ah ben voilà, ce sera juste après l'émission avec le café. Voilà, on a déjà le programme du début d'après-midi. Alors, vous allez nous révéler l'origine d'un certain nombre d'expressions. Et on commence par un mot qui est important en ces temps de confinement, les rayons des supermarchés. Et heureusement, tiens d'ailleurs, Didier Guillaume l'a rappelé, le ministre de l'Agriculture, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Ils sont bien achalandés. Achalandés, dans quel sens on utilise ce mot aujourd'hui d'abord?
Eh bien, comme vous venez de le faire, et c'est un sens qui veut dire donc fourni en marchandises, bien approvisionné, etc. Mais c'est un sens qui reste critiqué par les dictionnaires, le Larousse notamment, puisque achalandé s'est bâti sur chaland, les clients, hein, les chalands. Donc en fait, un magasin bien achalandé, c'est un magasin qui a de nombreux clients. Alors c'est vrai que le sens est tellement dérivé que maintenant, ben c'est quasiment, je pense que dans quelques années, le sens ne sera même plus critiqué. Mais pourtant au Québec, le sens a conservé, enfin le sens originel a été conservé. Hein. On parle même de quartiers ou d'autoroutes achalandées pour dire qu'ils sont très fréquentés.
Muriel Gilbert, vous êtes correctrice au Monde et ça nous rassure parce que même les journalistes de ce grand quotidien font des fautes. Ils sont humains eux aussi. Vous avez un exemple récent avec l'expression de pied en cap. Comment le ou la journaliste l'avait rédigé?
Alors, il s'agissait d'un chevalier. Alors, du coup, il était écrit que ce chevalier était armé de pied en cap. Et C-A-P-E, comme une belle cape de chevalier. Je comprends, hein, finalement.
C'est tentant.
Il y a une logique, c'est tentant. Mais effectivement, l'expression de pied en cap, eh bien, cap s'écrit C-A-P. Alors, c'est pas le cap géographique, c'est pas le cap ou pas cap, c'est pas le CAP de coiffeur. C'est un cap qui vient du latin, en fait, hein, du latin caput, la tête, voilà, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres mots français, d'ailleurs.
Et ce cap, d'ailleurs,
on le retrouve dans quel mot?
Alors, on le retrouve, par exemple, dans capital, par exemple, hein, l'adjectif capital, dans le sens de crucial, important, c'est capital. Dans même le nom capital, la capitale de la France, c'est Paris, hein, la lettre capitale également. En fait, tout ça vient de la tête, hein, le plus important, ce qui est en haut. Et même, on le retrouve dans la peine capitale, la peine qui peut vous coûter la tête. Hein. Voilà. Et même le capitaine, en fait, vient de là. Le capitaine, c'est celui qui est en tête de la troupe. Donc, tout ça, c'est dérivé du latin caput, hein, comme le cap de pied en cap.
De pied en cap, on l'a maintenant, c'est bien Muriel Gilbert. Il y a une autre expression souvent mal orthographiée quand on réclame par exemple quelque chose à cor et à cri. Ça s'écrit comment et quelle est la faute que vous voyez souvent?
Alors je le trouve très souvent, ben là encore, un peu avec une logique moderne, écrit C-O-R-P-S comme le corps humain, hein, comme si je le réclamais de tout mon corps. Et pourquoi pas, ce serait assez logique. Mais en fait non, c'est une expression donc, qui s'écrit à cor, C-O-R, et donc en fait qui vient de la vénerie, hein, de la chasse à cour. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, chasse à cour, C-O-U-2-R-E. Là aussi, c'est un cours qui n'est pas ordinaire. Et donc, chasser à cor et à cri, c'est ce que nous explique le Larousse, par exemple, c'est chasser à grand bruit, avec le son de la trompe, les cris des veneurs, les cris des chiens. Et donc, c'est le corps de chasse, C-O-R, et pas le corps humain.
On progresse grâce à vous. Merci Muriel. Vous publiez encore plus de bonbons sur la langue à la librairie Vuibert. Ces expressions, il faut les manipuler un peu avec précaution parce que si on dérive un tout petit peu, ça devient presque ridicule, c'est ça ?
Oui, c'est vrai. S'ils ont dit « j'ai les yeux plus gros que l'estomac » ou « les mains m'en tombent » à la place de « les bras m'en tombent », en fait, d'abord, on risque de ne pas vous comprendre et puis ça tombe un peu à côté. En même temps, on a toujours le droit de créer de nouvelles expressions, bien sûr. Donc, c'est un peu le paradoxe avec les expressions parce que rien ne vous interdit d'en créer de nouvelles. Mais il faut le faire exprès.
Bah tiens, on va dire qu'on saute du coq au baudet ou de la poule à l'âne.
Et voilà, et si vous le faites exprès, vous avez le droit.
Voilà, ça va être notre nouvelle expression pour dire qu'on varie souvent les thèmes le soir à 21h sur RTL avec deux thèmes dans la curiosité du soir. D'autres surprises, on vous promet d'autres surprises tout de suite sur RTL avec notre prof de français du jour. On plonge dans les fables de La Fontaine. À l'origine, vous allez le voir, de nombreuses expressions courantes.
Je sais jamais comment l'écrire, c'est compliqué le français.
Ben non, c'est pas compliqué, c'est quoi ton mot?
Foi, ça prend-tu un E?
Ça dépend, c'est-tu la foi ou le foi?
La curiosité retourne à l'école.
La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend un E.
Non, si c'est la foi, ça prend pas de E.
Mais c'est quand que ça prend un E d'abord?
Quand c'est masculin, quand c'est le foi.
RTL.
Moi ça. Non, mais toi, c'est la foi avec un S.
Non, le S, c'est au pluriel.
Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S.
Avec Thomas Hugues et Sidonie Bonnec.
C'est vrai que c'est pas compliqué, le français.
Un extrait de la série québécoise Les Beaux Malais. C'est vrai que, vu d'un peu plus loin, en effet, elle n'est pas si simple, notre langue française, mais on l'aime quand même. Puis il faut apprendre à la maîtriser, on n'a pas vraiment le choix. C'est ce qu'on vous propose en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Un cours de français pour mieux comprendre l'origine des mots et des expressions. Et c'est Muriel Gilbert, correctrice au Monde et chroniqueuse sur RTL dans la matinale week-end, qui nous fait cours. Aujourd'hui, évidemment, avec elle, tout est toujours limpide. Et c'est vrai qu'avec ce confinement, on a tous besoin d'aller chez le coiffeur, surtout Thomas, que je vois comme ça.
Je ne vois pas pourquoi vous dites ça.
C'est long, quoi. Enfin, bientôt, ouais, vous allez me ressembler. D'où vient l'expression c'est tiré par les cheveux?
Je commence à avoir une mèche un peu crantée. C'est
vrai. Très Clark Gable. Ça vient d'où cette expression c'est tiré par les cheveux?
Bah, en fait, bon, quelque chose de tiré par les cheveux, hein, c'est selon la définition du dictionnaire, c'est quelque chose d'amené de façon peu logique, peu naturelle. On dit par exemple des explications tirées par les cheveux pour dire qu'elles ne sont pas tellement crédibles. Et en fait, la locution serait apparue au début du XVIIe siècle. Et en fait, le sens vient des violences capillaires, hein, au sens littéral de l'expression. Quand on tire quelqu'un ou quelqu'une par les cheveux, et ben, on le contraint, on le force comme une idée qu'on emmène dans une direction illogique ou tarabiscotée. Comme si on la tirait de force, en fait, dans le sens qui nous arrange. Il y a plein d'autres expressions qui utilisent les cheveux et les poils, évidemment. C'est vraiment, ça fait partie de ce qui inspire le plus les expressions. Voilà.
Mais, c'est vrai, en France particulièrement?
En France et ailleurs, d'ailleurs, parce que bon, en France, c'est vrai qu'on dit « si au poil » ou « il a un poil dans la main » ou « j'ai de mauvais poils », par exemple. Oui. Mais il y a aussi, dans les pays étrangers, moi j'adore les expressions, j'ai même écrit plusieurs livres sur les expressions, et dont un qui s'appelle « que votre moustache pousse comme la broussaille », voilà une expression de poil, hein, voilà, et ça veut dire « à vos souhaits » en Mongolie. Hein, voilà, donc,
C'est génial.
Ce qui est un peu plus long, mais ce qui est quand même très drôle.
C'est très joli.
Non mais... Et oui, c'est très joli. Vous avez reçu d'ailleurs Muriel pour parler de ce livre. Et c'est vrai qu'on dit, on dit pas je suis de bon poil. Pourtant, moi, je suis de bon poil aujourd'hui.
Je suis de bon poil. Ça se dit aussi. Ah, mais bon poil aujourd'hui, si, je suis de mauvais poil.
Oui, est-ce que je peux dire à Thomas, vous avez un beau poil? Non, ça, c'est pas.
Non, ça,
c'est votre chien qui s'appelle Thomas, oui.
Oui, j'ai le poil bien luisant. C'est vrai. J'ai
ma réponse.
Voilà, merci beaucoup. Ou si vous vous mettez à deux, là, vous avez beau être loin l'une de l'autre, je vois que ça fonctionne bien. Bon, Muriel, on va continuer notre cours de français grâce à vous. Et on va réviser, on en profite, nos fables de La Fontaine. Par exemple, le coche et la mouche.
Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femme, moine, vieillard, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient. Et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller à la machine, s'assied sur le timon.
Je suis très heureux d'avoir trouvé cette pépite quand même, le coche et la mouche, dit par Louis de Funès. Évidemment, on a tous reconnu Louis de Funès. Jouer les mouches du coche. Alors, il faut d'abord nous redire le sens de cette expression. Et donc, si j'ai bien compris, elle vient de La Fontaine, Muriel.
Tout à fait, il y a énormément d'expressions françaises, en fait, on ne le sait pas forcément, mais qui viennent des fables de La Fontaine. Ça fait vraiment partie de notre culture, et même les fables qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, le coche et la mouche, tout le monde ne connaît pas forcément cette fable. Mais effectivement, c'est donc l'histoire de... Donc, un coche, c'est un véhicule tiré par des chevaux. Un véhicule, c'était un chariot de transport public, une espèce de transport en commun de l'époque, en fait. Et donc, dans cette histoire, les chevaux ont bien du mal à gravir une pente, et une mouche arrive, ce qu'il raconte, et elle tourne autour des chevaux, et puis elle se met à les piquer, elle s'agite beaucoup, elle ne sert à rien, en fait. Mais une fois que le coche est arrivé en haut de la côte, eh bien, la mouche prétend que, ah, merci, c'est grâce à moi donc, que vous êtes arrivé en haut de la côte. Et donc, c'est ça, jouer les mouches du coche, c'est s'agiter beaucoup, inutilement, et s'attribuer des mérites inexistants. En fait. Donc voilà, c'est ça le sens de jouer les mouches du coche, et nous vient de La Fontaine.
Une autre expression qu'on entend souvent, qu'on voudrait décoder avec vous, c'est prendre son pied. Alors c'est vrai que le pied, ça peut être une partie très érogène pour certains, mais enfin quand même,
ah bon,
c'est quoi l'explication de cette expression ?
Alors, prendre son pied, en fait, il faut voir le pied au sens de l'unité de longueur. Les pieds, les pouces, etc. 3 pieds, 6 pouces. En fait, donc, quand on prenait son pied dans l'argot des malfrats au 19e siècle, par exemple, on prenait sa part plutôt d'un butin, a priori. Donc, quand on prend son pied, c'est qu'on a son compte. On est satisfait, quoi. Voilà, c'est ça.
C'est très clair. Notre cours de français continue avec vous, Muriel Gilbert, avec ces mots dont l'orthographe ne correspond pas à la prononciation. Par exemple, femme, second, monsieur, autant de pièges pour les élèves. Mais qui a décidé que « second » s'écrivait avec un « c » et se prononçait comme un « g » ? Bon, allez, on cherche les coupables sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bon, alors je fais « oiseau ».
Oiseau ?
Oiseau.
Oiseau au A.
La curiosité.
C'est pas avec un A, un oiseau, c'est avec un I. Un oiseau n'est pas forcément dans un nid.
Oh, ce que t'es con.
Retourne à l'école.
Et mémé, ça va être à vous, après, préparez-vous.
Sur RTL.
Alors mémé ? C'est à vous de jouer, là.
Ah,
elle a plusieurs lettres, mémé.
Ouais, c'est bien.
Qu'est-ce qu'elle écrit, là?
Gaga.
Bon, on va encore l'accepter, mémé, mais c'est la dernière fois pour ce mot-là.
On s'y croirait. On a vraiment l'impression d'une scène de... C'est François Pérusse, évidemment. Il a écrit ça il y a longtemps, mais ça s'applique parfaitement au confinement. On est très nombreux à jouer aux jeux de société. On a l'impression d'avoir vécu cette scène. Bref, on a cours de français avec Muriel Gilbert, que je rappelle que vous êtes correctrice au Monde, chroniqueuse dans la matinale week-end avec Stéphane Carpentier à 8h20. Et puis, sur rtl.fr, on vous pose aussi des questions. Et alors, on vous a posé cette question très judicieuse. Pourquoi le mot « second » s'écrit avec un « c » alors qu'on le prononce avec un G, comme un G, dites-nous.
Ouais, j'ai adoré cette question, effectivement. Alors, le mot second, en fait, descend du latin classique. Il ne faut pas oublier qu'on a été envahi par les Romains, et ça se sent beaucoup dans notre langue. Donc, il descend du latin classique secundus, prononcé avec le son C. Secundus, ça veut dire suivant, en fait. Et donc, les mots, bien sûr, ont été déformés avec le temps, se sont modifiés progressivement, mijotés aux différentes sauces gauloises locales. Et assez vite, secundus a perdu sa finale en us. Et peu à peu, on a commencé à donc dire second. En fait, second est sans doute plus facile à prononcer. Et donc, jusqu'à à peu près au XVIIe siècle et à la création de l'Académie française, chacun écrivait comme il le souhaitait. Et donc, on trouvait dans les textes second avec un C ou avec un G, selon que les gens le prononçaient d'une manière ou de l'autre, d'ailleurs, sans doute. Et en fait, la même transformation de consonne s'est produite aussi, d'ailleurs, avec un autre mot, le mot dragon. Dragon, lui aussi, descend du draco latin, D-R-A-C-O. Sauf que dragon, en français, s'écrit bien avec un G. Et second, en revanche, a souffert d'une, ce qu'on pourrait considérer comme une intervention intempestive des lexicographes du XVIIIe siècle, qui ont décidé de rendre au mot sa racine latine, et donc de l'éloigner de sa prononciation, et donc d'écrire comme secundus, en tout cas S-E-C, au lieu de segundus, second, voilà.
En revanche, les Espagnols se sont facilité la tâche. Ils disent « segundo », ils gardent le « g ».
Et oui, voilà, ils disent « segundo » et ils écrivent « segundo ». Et les Anglo-Saxons disent « second », c'est-à-dire ils prononcent avec un C et ils l'écrivent avec un C. On est les seuls en France à vouloir continuer de prononcer avec un G et d'écrire avec un C.
Mais on adore ça. On adore
voilà,
ça.
C'est ce qui rend nos dictées plus intéressantes.
Il y a une autre orthographe qui ne correspond pas à la prononciation, c'est le mot « femme ». On devrait dire « femeux » si vraiment on lisait ce qu'on écrit. D'où vient ce mot ?
Et bien, c'est la même chose en fait, hein. C'est le même processus, ça vient du latin femina, F-E-M-I-N-A, qui progressivement donc, s'est prononcé en France femme, puis femme. Mais là encore, les lexicographes ont tenu à maintenir le lien avec l'origine latine, donc le premier E, même s'il se prononce A. C'est toute la différence entre effectivement la graphie du français et celle de l'espagnol qui est beaucoup plus simple. En France, on a voulu maintenir dans l'orthographe les racines latines.
Donc, si j'ai bien compris, on en veut aux lexicographes du XVIIIe siècle.
Eh bien, ceux qui ont des soucis en dictée peuvent en vouloir aux lexicographes du XVIIIe siècle.
Parmi les pièges du français, Muriel, il y a aussi ces mots qui ont plusieurs sens. Alors voici le mot « toilette ». Avec lui, on passe des lieux d'aisance à l'élégance vestimentaire. Qu'est-ce qu'il veut dire à l'origine ? « Toilette », ça désigne quoi au tout début ?
Eh bien, vous voyez, si on réfléchit, en fait, c'est tout simple, hein. Toilette, c'est une petite toile. En fait, à l'origine, c'est une petite toile fine, hein, ça date du 14e siècle. C'est une petite toile fine qu'on posait sur une table. Alors évidemment, tout ça, c'est avant les salles de bain, hein, c'est avant l'eau courante. Donc on posait cette petite toile sur une table où on disposait tous les outils qui servaient à se faire beau, le peigne, les crèmes, les poudres, etc. Et puis ensuite, ça arrive souvent dans la langue, ça par déplacement de sens, on appelle ça une métonymie, le mot s'est mis à désigner la table même. Donc on s'est mis à appeler une toilette, cette table même, où on pose éventuellement une cuvette et des produits d'hygiène. On en trouve hein, des toilettes comme ça chez les brocanteurs parfois. C'est ce meuble avec une plaque de marbre sur le dessus. Et puis ensuite est venue la locution, la façon de parler, dire faire sa toilette, sans oublier quand même l'acception du mot, comme synonyme un peu vieilli, ça disparaît, mais de la tenue vestimentaire d'une dame, hein, elle porte de jolies toilettes. Et puis voilà, et au XXe siècle, le mot est passé au pluriel et il s'est mis à désigner ce que l'on appelait auparavant les lieux d'aisance.
D'ailleurs, il y a beaucoup de noms pour ces lieux d'aisance, Muriel Gilbert, dans la langue française, on les adore. Comment on les désigne ?
Oui, alors il y a plein de noms et je pense que c'est parce que justement on ne veut pas prononcer le mot, hein, c'est à cause du tabou, donc on tourne autour du petit coin, des WC, on peut dire les wawa, les cagouins, le cagadou dans le midi, je trouve ça très joli, où il y a des expressions comme là où même le roi se rend à pied, voilà, tout ça pour éviter de dire les choses.
Nous aussi, on y va à pied. Moi,
j'aime bien les goguenots. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Les goguenots, c'est vrai. Oui, ça fait assez militaire, non ?
Moi, j'aime bien la pipi room.
Ah, oui.
Pipi room, pas mal. On pourrait
pendant très, très longtemps continuer de dégrainer les expressions qui désignent les lieux d'aisance. Mais
c'est la récré.
C'est la sonnerie, donc c'est la récré. Donc, on termine l'émission. Merci beaucoup, Muriel.
Merci, Muriel.
Vous publiez, je le rappelle, encore plus de bonbons sur la langue. C'est aux éditions La Librairie Vuibert. Et puis, on vous retrouve évidemment samedi, dimanche, 8h20, sur RTL. Merci.
La curiosité retourne à l'école.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues sur RTL.